Les 26 et 27 octobre 2019 se tenait la 14e édition du salon Tatou Juste, le rendez-vous des solutions heureuses. Radio Onden vous propose de revivre cet événement à travers l'espace média et les discussions rencontres animées par Radio Dio et Radio Onden durant tout le week-end.
En ce début d'après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Elsa Donadio. Bonjour.
Bonjour.
Elsa qui est avec nous, qui va intervenir là d'ici 45 minutes à peu près. C'est à 14h qui est attendu sur l'espace conférence ici, Parc Expo EB. Conférence, avant-dernière conférence d'ailleurs, hein, de ce week-end et de ce salon, puisque ce sont quatre grandes conférences qui étaient proposées durant ce week-end. Une dernière donc qui va concerner les low-tech. Alors Elsa Donadio, vous arrivez tout juste de Grenoble.
Exactement.
Il y a quelques minutes, quelques heures. Bienvenue déjà à Saint-Etienne.
Bah, merci beaucoup.
Bienvenue sur ce salon Tatou Juste que vous connaissiez ou non ?
Non, c'est la première fois que je viens. Je suis assez impressionnée. C'est ouais. Immense et plein de bonne énergie. On ressent...
Une habitude sur des salons de l'écologie ou des alternatives sur Grenoble, sur Lyon, sur lesquels vous avez peut-être l'habitude d'intervenir ?
Alors, ce n'est pas la première fois que je fais un salon. Il y a 3 semaines, on a intervenu avec le Low-Tech Lab Grenoble au Greener Festival à Lyon. Donc, un salon un peu plus intimiste, mais aussi plein de belles initiatives.
Oui, il y a aussi sur Lyon, bien entendu, le salon Prime Vert qui était un petit peu là, le pendant lyonnais de ce salon Prime Tatou Juste stéphanois. Le Prime Vert qui se tient au mois de février-mars chaque année, bien entendu. Alors, il y a une petite particularité. Elsa Donadio, je dis et je rappelais que vous veniez d'arriver parce que alors c'est un peu, il faut aussi le préciser et le rappeler, il y a une petite modification de programme, non pas sur le contenu, le fond, mais sur la forme, c'est-à-dire que était attendu pour cette conférence portant sur la résilience et l'autonomie grâce au low-tech, Marjolaine Berthe et Kevin Loel. Et finalement, tous deux ne pourront pas être présents ce salon et vous les remplacez en bonne dernière minute et en toute urgence.
Exactement, c'est un petit challenge pour moi de remplacer mes collègues, mais non, c'est chouette. Oui, effectivement, ils ont eu un empêchement de dernière minute et ils n'ont pas pu se rendre présents.
Voilà, mais ils représentaient, tout comme vous, le Low-Tech Lab dont vous allez nous parler. Vous validez le titre, même si vous n'intervenez comme ça en dernière minute qu'à leur place. Résilience et autonomie grâce au low-tech, vous validez.
Je valide.
Alors, pleinement. Le Low-Tech Lab, on va préciser d'où vous venez. De quoi s'agit-il ?
Alors, le Low-Tech Lab, c'est une association qui, initialement, est basée à Concarneau, donc en Bretagne.
Donc, d'où vient Marjolaine ?
D'où vient Marjolaine ? En fait, on fait des low-tech. Donc, c'est des technologies. Je vais expliquer peut-être un peu plus tard
ouais, faut expliquer. Ce que c'est. Ces anglicismes aussi, parfois. Là.
Voilà, exactement. Bon, en fait, les low-tech, en français, on pourrait appeler ça des technologies adaptées ou des technologies douces. Donc, qui sont un peu l'alternative, le penchant des high-tech.
Des hautes technologies.
Voilà, des hautes technologies. Bon, donc, ce sont des technologies qui sont... On peut mettre 3 piliers principaux qui sont utiles, donc qui répondent à des besoins essentiels. Ça peut être dans tous les domaines, le domaine de l'habitat, de l'énergie, de la construction, la santé. Et l'objectif, c'est de répondre à ces besoins de manière avec peu. Avec les ressources locales et les moyens du bord. Donc, ce sont des technologies qui sont durables. C'est le deuxième pilier des low-tech. C'est des technologies durables, faites avec des matériaux. Ça peut être du recyclage, avec vraiment les moyens du bord. Et c'est des technologies accessibles. Accessibles dans le sens où on a besoin de peu de moyens. Donc, ça peut être accessible en termes de coût. Donc, un coût économique faible. Est accessible en termes de matières premières, donc on n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour fabriquer ces technologies. Et enfin, c'est accessible en termes de savoir-faire. Donc l'objectif, c'est que ce soit des technologies qu'on puisse faire bricoler nous-mêmes, faire nous-mêmes, donc réparer nous-mêmes, ce qui est très important, puisque quand on compare par exemple au high-tech, une télé, si elle est cassée, elle est difficilement réparable soi-même. Des fois, la réparation coûte même plus cher que la télé en elle-même. Donc là, l'objectif, c'est de se réapproprier les savoir-faire et à lutter un peu contre l'obsolescence programmée. Après, il ne faut pas forcément être un grand bricoleur pour faire des low-tech. L'objectif, c'est quand même que ce savoir-faire s'applique à tout le monde et de les mutualiser. Donc c'est pas forcément qu'une échelle individuelle, c'est quelque chose qui est hyper important à rappeler. Par exemple, on va pas les low-tech sont très pertinentes, par exemple pour une maison, un refuge perdu dans la montagne et être autonome, mais c'est également pertinent en ville. On va pas demander à chacun d'installer un compost chez soi, mais on va mutualiser en ville un compost pour tout le monde. Et l'objectif, c'est aussi de mutualiser ses savoir-faire. Donc pas, on assiste un peu, on n'est pas besoin d'être un gros bricoleur pour faire de ces low-tech, on a besoin de tout le monde, quoi.
Oui, alors se pose cette question de l'accès, effectivement, et du savoir-faire. Et là, c'est mutualiser, certes, ce qui veut dire que c'est quoi, du partage aussi énormément. On mutualise donc, on partage des savoirs, des savoir-faire. Donc ce sont des sortes de communautés, finalement, qui existent ou qui se constituent.
Alors exactement, alors le Low-Tech Lab, c'est une association donc basée à Concarneau qui
c'est une asso, hein.
C'est ça, qui a lancé différents projets d'expérimentation de low-tech que j'expliquerai un peu plus en détail à la conférence. Et en fait, il y a aussi des communautés locales récemment qui se sont créées un peu partout dans des villes. Donc moi, je fais partie du Low-Tech Lab Grenoble, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est de développer les low-tech au plus près des citoyens et localement avec les ressources locales. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc c'est des associations.
Oui.
Je pense juste au côté du partage. Low-Tech Lab a mis en place une plateforme où chacun peut écrire des tutoriels pour fabriquer ces low-tech. Donc c'est une plateforme en open source. Donc l'objectif, c'est vraiment de que chacun puisse avoir accès à ses savoir-faire et puisse les améliorer.
Il faut quand même un ordinateur et des outils high-tech, alors.
Effectivement, oui.
OK. Comment fonctionne précisément ? Prenons concrètement l'exemple du Low-Tech Lab de Grenoble, dans lequel vous sévissez.
Alors, comment on est une asso qui est assez récente. Ouais. On est né en novembre-décembre 2018. Donc, on est en train de s'étendre et de prendre de l'ampleur. Mais on a plusieurs volets. On a un volet de sensibilisation des low-tech. On intervient sur des salons, des actions de sensibilisation. On organise des ateliers de construction de low-tech sur place. On a aussi tout un côté... On vient tout juste d'avoir notre local, donc on va pouvoir enfin se lancer dans des expérimentations de tutoriels et les améliorer. On a organisé aussi récemment un tour, low-tech tour à vélo. On a fait le tour du bassin grenoblois et à la recherche d'expérimentations low-tech. Donc on a trouvé des exemples assez surprenants d'une palmeraie. Oui, ça existe dans les Alpes, une palmeraie où on utilisait, enfin le propriétaire utilise un engrais à base d'urine. Donc des low-tech surprenantes qu'on peut trouver à côté de chez soi.
Précisons peut-être à nouveau de quoi il s'agit, parce que là on prend l'exemple du salon Tatouju sur lequel nous sommes installés. Je me dis par exemple que tous les espaces dédiés, que ce soit la mobilité, que ce soit la construction, l'habitat, finalement ici ne sont proposés que ces formes de low-tech précisément, puisqu'on est dans des solutions ici proposées durables, écologiques, économique parfois, mais peut-être pas tout le temps d'ailleurs, c'est peut-être discutable. Mais est-ce qu'on parle de ça aussi ici ?
Oui, tout à fait. Là, je suis passée en rentrant dans le salon, j'ai vu des fours solaires. Donc, c'est typiquement une low-tech très connue. Low-tech, c'est assez relatif en fait. Il n'y a pas de. Il n'existe pas d'objets ou de technologies avec zéro impact. Donc, une low-tech sera toujours plus low-tech par rapport à quelque chose. Par exemple, on peut dire que des petites éoliennes en bois sont plus low-tech qu'une grande éolienne qu'on peut voir dans la campagne. Mais ça reste quand même quelque chose qui peut être un peu impactant. Et...
Oui. Quel parcours avez-vous, vous Elsa ? Parce qu'on parle de low-tech et d'appropriation de savoir ou de savoir-faire. Mais qu'est-ce qu'il en est vous concernant, par exemple ?
Alors, moi, je suis en dernière année d'école d'ingénieur.
Ah, voilà, faut être ingénieur quand même.
Alors non, alors justement, c'est vraiment le message qu'on essaye de pas faire, de pas montrer. Effectivement, les low-tech, ça, on a l'impression que c'est réservé aux ingénieurs. Mmh. Alors que non, on a vraiment besoin de tout le monde pour que les low-tech se développent. On a besoin de personnes qui savent gérer des équipes, qui savent coordonner. Pour les communautés locales, on aura besoin de trésoriers, de personnes qui s'occupent des ressources humaines. On a besoin d'enseignants qui viennent, qui parlent des low-tech et qui les diffusent, pas forcément le prof de techno. On a besoin aussi de profs d'éducation civique, par exemple, ou de profs d'anglais qui peuvent traduire les tutoriels qu'on fait pour les rendre accessibles à tous. Donc on aurait besoin peut-être d'artistes qui fassent, je sais pas, une BD sur les low-tech. On a vraiment, tout le monde peut se mobiliser et c'est pas réservé aux ingénieurs. Au contraire, des personnes qui ont moins de connaissances techniques vont peut-être arriver à faire quelque chose de plus simple et de plus accessible à tous.
Toute connaissance bienvenue, toute compétence bienvenue.
Exactement.
Ok, parce que c'était aussi un souci de transmission. Donc vous-même avez peut-être ces connaissances, ce savoir-faire technique que vous décidez de transmettre ou en tout cas retravailler ou travailler autrement.
Voilà, exactement. Et
c'est l'idée.
Et c'est pas forcément plus facile de faire plus simple.
Oui.
De faire avec des, enfin, finalement, les contraintes en termes de coûts et en termes de matériaux rendent cette innovation assez compliquée. Donc, une phrase qui est assez sympa, je trouve, qui dit « Désolé, mais j'ai pas eu le temps de faire plus simple. » C'est vrai.
Des exemples de, concrètes, par exemple, d'interventions et de low-tech fab, je dirais plutôt, que vous avez pu là réaliser dernièrement.
Alors, dernièrement, à Grenoble, on a réalisé des formations de rocket stove, ça s'appelle. Ce sont des petits poêles pour faire cuire sa nourriture. C'est des poêles qui sont faits à base de boîtes de conserve et qui ont une combustion. Enfin, la combustion du bois est très, très efficace. Donc, on n'a besoin que de très petits bouts de bois pour chauffer nos aliments. Donc, par rapport à un feu à ciel ouvert, on est beaucoup plus efficace et ça permet de faire de la récup, de redonner une nouvelle vie à des boîtes de conserve et avec les moyens du bord de faire rocket stove. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. On fait aussi, on a fait des bici machina, ce sont des machines à pédales. Donc on utilise le mouvement de rotation des pédales pour faire tourner, par exemple un smoothie, quelque chose pour faire un smoothie ou un mixeur, pour faire tourner une machine à laver. En fait, ce mouvement de rotation, il peut être utilisé dans énormément d'applications.
Ce qui m'était venu directement à l'esprit, alors j'ai perdu le terme fatigue faisante là, du week-end. On avait beaucoup vu ces formes d'expérimentation ou de laboratoire où effectivement on était dans l'auto-réparation ou auto-fabrication sur effectivement des pièces de réparation par exemple qu'on pouvait, alors je ne sais plus comment, composer à partir de plastique par exemple. On pouvait recomposer sa pièce informatiquement. C'est un peu l'image, moi, que j'en avais. Vous voyez ce que je veux dire ou non ?
Oui, c'est possible. On peut récupérer plein de choses avec le plastique. On fait également, par exemple, de la pyrolyse à partir de plastique. On va transformer le plastique en carburant. Enfin, plein de choses fantastiques à faire en récupérant les déchets.
Voilà, qui permettait en tout cas, oui, de refabriquer une pièce plastique au lieu d'aller en acheter une en fer ou en autre matériaux, etc. J'ai perdu le terme de ces expériences, là, de ces laboratoires. On voit beaucoup se développer hein, quand même cette forme de réappropriation des choses. On en voit aussi à Saint-Etienne. Il y a des ateliers éphémères qui sont non pas éphémères, puisque ce sont des rendez-vous assez réguliers où les gens se retrouvent pour effectivement proposer de partager, de réparer ensemble. On voit de plus en plus tout de même se développer ce type d'activité. Il y a une particularité sur l'association Low Tech Lab et Marjolaine devait en parler, mais vous devez être informé vu que vous êtes une sorte d'antenne finalement aussi locale, régionale.
Exactement.
C'est un projet alors, qui sort là du micro local ou macro local, je ne sais plus comment on dit, pour aller à l'international et notamment proposer ces expériences finalement, hein, sur des pays étrangers et notamment il y a le projet Low Tech for Refugees. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors c'est plutôt une communauté locale qui est située à Lesbos, c'est une île grecque. C'est un camp de réfugiés, on est actuellement 16 000 réfugiés sur ce camp. Et là-bas le Low Tech Lab maintient un atelier qui s'appelle le Low Tech Makerspace, qui se situe dans un centre d'accueil de jour. Donc c'est un atelier où les réfugiés peuvent venir réparer leurs objets ou fabriquer de nouveaux objets. Donc actuellement, il y a à peu près 350 personnes qui passent par mois. Et l'équipe qui est sur place est composée de plusieurs bénévoles, mais les deux tiers sont des réfugiés eux-mêmes qui forment aussi des apprentis. Donc c'est quelque chose de très pérenne. Et donc ils essayent de répondre à leurs besoins par les low-tech. Donc par exemple, on va avoir tout ce qui est justement ce qu'on parlait, les rocket stoves ou les poêles qui peuvent servir à réchauffer quand c'est en hiver. Et en été, les besoins sont différents. On a besoin plutôt de rafraîchir. Donc on va utiliser d'autres technologies qui permettent de rafraîchir. Donc il y a tout un côté répondre aux besoins grâce au low-tech.
Oui. Peut-être dernière question ou dernière salve de questions. Quand on voit Low-Tech Lab, on a l'impression de voir aussi une forme de labellisation de la chose et on entend le souci d'économie, enfin le souci de bricolage et de réappropriation des savoir-faire. Mais je me pose la question tout de même de savoir s'il y a une forme d'invention aussi et de réinvention ou de création. Est-ce qu'il arrive que, en développant un poêle comme vous le disiez à l'instant, que ces produits-là soient... commercialisé entre guillemets, vendu, ou ce n'est pas du tout la logique, ou ça serait une forme de contradiction peut-être entre guillemets.
Alors c'est vrai que à la toute base l'idéologie low-tech est de faire que chacun s'approprie les savoir-faire, mais ça peut être très très bienvenu qu'il y ait des low-tech qui soient vendus justement pour des personnes qui n'ont pas envie de bricoler justement ou qui préfèrent acheter. Par exemple, je vois sur le salon on vend des poêles de masse. Donc, qu'on peut considérer comme des low-tech, des fours solaires aussi, on peut en acheter à Nature et Découverte. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la démocratisation des low-tech qu'elles puissent être vendues et ça ne va pas forcément à l'encontre de l'idéologie de base.
Non, mais ça pourrait être une low-économie proposée aussi.
Tout à fait.
Et qui parfois ne l'est pas toujours. Merci beaucoup, Elsa. Donadio qui intervient alors d'ici une petite trentaine de minutes maintenant. On va vous laisser rejoindre l'espace conférence sur ce Parc Expo Hall B et vous pourrez davantage développer le low-tech, présenter l'association Low-Tech Lab et nous parler à nouveau d'autonomie, on l'a abordé là, de résilience. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce terme là aussi, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Résilience et autonomie grâce au low-tech, c'est la conférence à 14h, donc d'ici une trentaine de minutes. Merci à vous.
Merci.
Et bonne continuation et bonne conférence tout à l'heure aussi.
Merci beaucoup.